Je retrouve le Centre des congrès pour cette spéciale Salon international du livre de Québec avec une table ronde sur le polar. Pourquoi le polar? Mais écoutez, c'est tellement populaire. Et je suis sûre qu'ici, parmi les gens qui sont venus nous rejoindre, notre public est arrivé entre-temps. Combien d'entre vous aimez les livres policiers? Levez la main pour voir. Ben là, c'est presque tout le monde. D'ailleurs, il faudrait que je lève ma main moi aussi. Presque tout le monde aime le policier. C'est un genre qui séduit. Et j'ai avec moi trois auteurs de Québec parce qu'il s'écrit d'excellents policiers à Québec et au Québec, mais à Québec, parce que vous êtes trois auteurs d'ici. Alors, je vous les présente tout de suite, ces gens de la table ronde. Diane Vincent, qui a publié plusieurs livres qui mettent en vedette un tandem d'enquêteurs très original. Josette Marchand, massothérapeute, et le très séduisant et italien Bastianello. Alors, cet enquêteur de Montréal. Et le dernier livre en date, c'est Poison chez Triptyque. Bonjour, Diane.
Bonjour.
Juste à côté, vous avez Jacques Côté, qui a publié aussi plusieurs polars qui se déroulent ici même, dans la ville de Québec. J'aime beaucoup ces polars aussi qui se déroulent dans les années 70 et qui mettent en vedette l'inspecteur de la Sûreté du Québec, Daniel Duval, coureur comme vous, hein, Jacques?
Oui, j'aime
beaucoup le marathon. Je cite des livres comme Nébulosité croissante en fin de journée ou Le chemin des brumes, Le chemin de brumes.
Des brumes. Et non pas des brunes, comme j'avais déjà dit, Catherine, pour te taquiner.
c'est publié chez Alire. Bienvenue, Jacques.
Merci, Catherine.
Publié chez Alire également, M. Sainte-Marie, Richard Sainte-Marie, un retraité des arts visuels qui vient de publier son premier policier, quoique son premier livre était quand même pas loin du policier parce qu'il était question d'un meurtre et de la difficulté à vivre avec sa conscience et ce meurtre. Donc, Richard Sainte-Marie qui publie « L'inaveu », qui vient d'être salué par Norbert Spener hier dans la presse comme un grand cru avec 4 étoiles.
Eh oui, formidable, hein?
Là, ça part bien une carrière d'auteur de polar. Bienvenue, Richard Sainte-Marie.
Bonjour.
Et là, vous avez créé, vous aussi, un inspecteur italien qui s'appelle Pagliaro.
Québécois, mais avec un nom italien. Pagliaro, c'est très québécois. Hein? Tout le monde connaît Pagliaro.
Il travaille à Montréal, lui aussi. J'ai envie de vous demander pourquoi des inspecteurs italiens travaillant à Montréal, tous les deux, Richard et Diane. Quelle drôle de coïncidence.
Oui, c'est vrai. Hein? Mais moi, c'est parce que je voulais le faire travailler à Parthenay. Parce que j'aime l'édifice, puis il y a un mythe autour de Parthenay, l'édifice de Rome d'ailleurs qui s'appelle. Donc il fallait qu'il soit de Montréal, et j'avais déjà écrit mon autre roman, ça passait à Rosemère et à Montréal. Donc, c'est un peu la même... Je l'avais encore le paysage en tête.
C'est intéressant, ça, une préoccupation visuelle qui vous impose un lieu. Ça, c'est quand même assez rare.
Oui, c'est drôle, hein?
Diane Bastianello.
Bastianello, ben, Montréal d'abord, à cause du message possible. Je suis montréalaise d'origine et j'ai toujours vécu dans des communautés très métissées. Donc, pour moi, maintenant, je vais à Québec depuis 30 ans et ça me permettait, d'une part, d'avoir la distance nécessaire pour pouvoir écrire sans être trop dans mon milieu de travail, si on veut. Donc, et puis aussi, de pouvoir avoir accès justement au métissage qui est fondamental dans mes romans précédents, dans tous mes romans, en fait.
Alors, vous voyez déjà qu'on a d'autres préoccupations que le policier comme tel dans vos livres. Jacques, vous, ça se passe à Québec, mais dans les années 70. Donc, encore là, un besoin de vous décaler par rapport à votre environnement de tous les jours.
Exactement. Bien, ça me permettait de prendre cette distance-là, qui est intéressante pour un écrivain, parce que c'est quand même un petit voyage dans le temps, d'une trentaine d'années. Et puis, veux pas, la ville a quand même beaucoup changé depuis ce temps-là. La mentalité aussi, la forme. Bien, la mentalité, certains diraient pas tout à fait, hein, mais... je m'excuse, mais les modes ont changé, les édifices, c'est une autre ville également. Donc, moi, ça m'intéresse de faire connaître ces années-là. Là, je monte justement ma chronologie. Le prochain roman va se passer en 1983-84, la fameuse histoire de l'été Mérémonde. Donc, on va être dans ça. Ça va être pas un élément très important, mais les gens qui ont vécu cet été-là vont s'en rappeler.
Et vous revenez au policier avec Duval?
Oui, parce que là, j'ai fini le troisième tome des Cahiers noirs de l'aliéniste. Le prochain roman va s'appeler Le mausolée du Dr. Def. Il est terminé, mais je l'ai remis un mois trop tard à mon éditeur. Donc, mais dans un sens, c'est pas une mauvaise chose. Il va sortir au printemps prochain, à l'hiver. Et puis là, j'ai commencé le cinquième roman de la première série, Ariel et Duval. Ouais.
Qu'est-ce qui vous rend accro aux policiers? Visiblement, vous aimez en écrire tous les trois, là. D'abord, Richard Sainte-Marie, vous l'avez approché, le policier, vous l'avez confirmé avec votre deuxième livre. Pourquoi? Oui.
Bien, moi, je pense que j'ai réfléchi à ça et je pense que être ou ne pas être, c'est la question qui se pose presque à toutes les pages dans un roman policier. C'est fondamental. être ou ne pas être, là, on ne sera pas ici. Hein? Bon, on est. Mais être ou ne pas être, c'est un concept, mais en même temps, ça peut amener des sentiments, parce que là, on parle de crime, la douleur, la culpabilité, la honte, le remords, la jouissance, la peur, tout ça, toutes sortes de niveaux de sentiments et de concepts qu'on peut travailler dans un roman policier avec toujours être ou ne mourir, vivre ou mourir, puis souvent de la violence. Et aussi, en même temps, il y a le bon et le méchant, le bien et le mal. Et c'est un peu nos policiers, nos personnages de policiers de romans sont un peu les chevaliers des temps anciens qui vont combattre le mal et qui vont faire régner le bien en principe. Alors, il y a tous ces ingrédients-là, c'est exactement tout ce qu'il faut pour créer des mythes à l'infini et aussi faire passer à travers nos histoires une deuxième histoire. Moi, j'aime beaucoup dans un roman policier qu'il y a quelque chose qui nous est raconté, mais il y a autre chose en dessous qui nous est dit. On va dire ceci pour raconter cela. Bien, le roman policier fait souvent ça.
Par exemple, vous, dans votre roman L'Inaveu, ce serait quoi votre deuxième histoire?
Moi, dans mes deux romans, c'est la même chose. C'est qu'il n'y a pas pire prison que celle qu'on se fait soi-même. C'est sûr que c'est... Ça, à mon âge, je l'ai vu partout autour de moi, des gens qui s'emprisonnent eux-mêmes dans toutes sortes de choses, qui s'empêchent d'eux, qui auraient voulu que j'aurais donc dû. Bon, il y en a plein, on en connaît des tonnes. Mais ce principe-là, je m'aperçois qu'il est récurrent. Il était aussi dans mon travail graphique. Est-ce que je suis comme ça? J'en sais rien. Mais c'est là. Et ça, c'est peut-être déguisé. Les gens vont lire, ils ne verront pas face à face. Mais pour moi, c'est mon hypothèse de travail, si vous voulez.
Jacques, Ediane, je veux vous entendre aussi sur ce qui vous... L'attrait du policier pour vous, comme genre, en écriture.
Ça permet... Pardon, j'ai un problème de voix.
Ça
permet de sonder l'âme humaine. Ce qui m'intéresse pour moi, c'est justement la frontière très floue entre le bien et le mal, qui fait que dans la société, les méchants s'en sortent parfois et les bons parfois payent le prix. J'aime bien cette frontière-là, justement, floue. D'où l'idée d'ambiguïté. Dans mes romans, d'ailleurs, il y a souvent des coupables qui vont s'en sortir parce qu'ils sont coupables, mais pas nécessairement de la chose qu'on leur reprocherait. Donc, j'ai parfois des coupables qui s'en sortent, mais ils s'en sortent au nom du bien, au nom du droit, au nom d'une certaine légitimité. Quelle légitimité on se donne qui nous permet, à un moment donné, de commettre des gestes affreux? Est-ce que c'est toujours des affreux qui tuent, d'ailleurs? Je ne suis pas certaine. Ça peut être, bon, on se légitime soi-même pour tuer. Donc, c'est un peu cette dimension-là qui m'intéresse et qui permet justement d'aller au creux de l'âme humaine et des interdits, des tabous. Bien sûr, je suis anthropologue de formation.
Ben
les
oui,
tabous, évidemment.
Ben oui, anthropologue de formation.
Oui, linguiste par défaut.
Quel merveilleux terrain de jeu, le polar, pour vous.
Oui, effectivement. Effectivement, parce que ça me permet... dans les recherches que je fais, de remonter à des pratiques qui sont parfois anciennes, millénaires, comme le tatouage dans le deuxième roman, par exemple, qui est une pratique qui a facilement 5000 ans.
Et dans Poison, ben là, c'est plus les gris-gris vaudous, là,
oui,
ou tout ce qui peut nous porter bonheur que vous explorez, là?
Tout ce qui peut porter bonheur.
Malheur aussi.
et souvent, ben, ce qui nous porte bonheur, c'est au détriment d'autrui.
C'est intéressant, hein? Exploration de la conscience, finalement, à travers
tout à fait.
Le polar. Jacques, vous?
Tout à fait. Ben, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est, je vous dirais, j'ai beaucoup aimé le roman noir américain. Puis en découvrant le roman noir américain, je me suis dit que c'est ce que je voulais peut-être reproduire, c'est-à-dire une peinture sociale du milieu criminel. Et en même temps, m'inspirer aussi des romans de procédure judiciaire, c'est-à-dire comment on procède dans les enquêtes, mais aussi parler de ma ville, intégrer justement la ville de Québec au cœur de ces histoires-là, du moins dans la première série. Ça, c'était pour moi prioritaire.
Et ce combat du bien et du mal, tout ça, là, c'est une préoccupation dans tout
non.
votre...
Non,
pas
non,
vous,
pas du
pas
tout.
Vous.
Non. Mais je sais que ce désir chrétien de voir réparer les fautes, tu ne tueras point, puis il faut punir les méchants à la fin. Je m'arrange toujours pour... Oh, oui, non, mais c'est... Je m'arrange pour qu'ils soient punis, mais à la fin.
Faut quand même que... On peut avoir du fun en cours de route.
Ben, pas du fun, mais il faut quand même avancer dans l'histoire. Et puis, mais même ces personnages-là qui sont des criminels, je les vois beaucoup dans l'esprit du criminologue, c'est-à-dire, je n'ai jamais voulu créer des machines à tuer pour tuer. C'est-à-dire, s'il y a des personnages qui sont des êtres infâmes, c'est qu'ils ont probablement grandi et vécu dans un milieu qui était difficile.
Donc, mais vous, l'aliénation est très présente dans vos livres.
Effectivement.
Folie.
Notamment avec la dernière série, Les Cahiers noirs de l'aliéniste, où je m'inspire d'un personnage qui a existé, Georges Villeneuve, qui est un grand spécialiste des maladies nerveuses et mentales de la fin du 19e siècle. Magnifique personnage, qui a aussi travaillé à la morgue de Montréal pendant 6 ans, qui a été le professeur de Wilfrid de Rome, qui a fondé le laboratoire de sciences judiciaires. Donc, il y a une belle connexion de Rome-Villeneuve. Et pour le Québec, écoutez, on était à l'avant-garde dans ce domaine-là.
Mais donc, c'est les fous. Les fous sont très présents. Ben, et, oui. Mais là, vous abordez quelque chose d'important aussi, c'est le besoin de véracité, de vraisemblance des policiers. C'est-à-dire que là, il y a tout un procédé, un processus d'enquête. Tout ça, il faut être réaliste quand même, là. Hein, les gens, ils écoutent assez de séries policières pour qu'on les mène pas en bateau. Dans quelle mesure est-ce que cette documentation est présente dans vos livres? Richard, vous avez fait un travail d'enquête sur l'enquête?
Un peu. Ben, j'ai un informateur à la Sûreté du Québec, c'est déjà pas mal, qui
c'est
peut
bien.
M'aider. Par exemple, des détails comme est-ce qu'un policier peut avoir un bureau au 7e étage? Ben, il dit oui. Moi, mon bureau est au 16e étage.
C'était pour la vue, vous?
Oui. Est-ce qu'il voit le pont Jean-Cartier? Non. Attends, je vais aller voir. Non, je le vois pas, mais je vois les approches. Je vois la montagne. Ah bon? OK. Puis, dans mon livre, il y a un petit bout qui se passe aux archives de la Ville de Montréal. Alors, j'ai envoyé un message à l'archiviste en chef, puis il m'a répondu une page entière. J'aurais pu faire copier-coller, là.
C'est un archiviste.
Ah, c'était formidable. C'était beaucoup plus beau que ce que j'avais inventé. Alors, j'ai piqué ça. Des informations, c'est dans un sous-sol avec une voûte. Ah, merveilleux. Alors, il s'agit de demander. Les gens sont toujours prêts à nous aider. Il y a des médecins qui nous aident aussi, des avocats. Alors, si vous connaissez quelques policiers, ça peut aider. Parce que les lecteurs de romans policiers sont souvent aguerris aux pratiques policières, à la procédure. Et ça fait mourir les policiers quand ils lisent un roman et qu'ils trouvent des erreurs de procédure, des erreurs d'armes à feu. Moi, je connais les armes à feu, j'en vois à plein. Même chez Robert Laffont, chez Gallimard, il y a des erreurs d'armes à feu. Mais c'est parce que l'écrivain n'est pas du tout, surveillé par l'éditeur qui ne connaît pas les armes à feu non plus. Alors, mais le lecteur, lui, oups, il y en a quelques-uns... Ça dégonfle un peu le ballon.
Ah oui, il faut avoir un sens du détail.
Oui,
là.
Mais Jacques, lui, est un expert, il connaît plein de trucs.
Plein de comptables, plein de taux qui travaillent pour vous.
Oui, mais j'ai aucune arme à feu à la maison, rassurez-vous.
Oui.
Oui. Bien, moi, j'ai eu beaucoup de chance dès le départ parce que j'ai eu des contacts qui m'ont amené à écrire la biographie du docteur de Rome. Donc, j'ai été à Montréal, justement, à l'édifice Wilfrid de Rome. À la fin de ma présentation, j'ai fait le lancement du livre. C'était plein d'experts. Il était 140, M. Côté. Si vous avez besoin d'un expert en chimie, là, il me tendait sa carte.
Oui, c'est le CSI de l'époque.
Ouais. Je dis, oui, justement, j'aurais besoin d'un expert chimiste toxicologue. J'ai une idée en tête. Et puis, à ça, on ne vous le dira pas, cependant. Ça a été intéressant de les voir travailler. Assister à une autopsie, c'est impressionnant. C'est une expérience sensorielle. Tu vis ça une fois, puis tu es capable de la reproduire dans ton livre. Et je me rappelle, j'avais demandé au médecin, pathologie judiciaire, qui avait fait l'autopsie, est-ce que vous pourriez relire ce que j'ai fait pour voir si j'ai fait des erreurs, tout ça, parce que c'est quand même assez impressionnant. Il avait relu, puis il avait dit, écoutez, c'est comme si vous l'aviez fait. J'ai changé quelques termes parce que je trouvais que ça faisait un peu trop savant et que vos lecteurs n'ont pas besoin de ça. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Puis ça m'a donné comme une leçon par la suite que c'est pas nécessaire d'avoir des termes très scientifiques pour donner l'impression que c'est réaliste. Et puis, donc, ces recherches-là, on donne un aspect intéressant. Il ne faut pas que ça baigne dans la recherche, mais je vous dirais que la série du 19e siècle, elle est très intéressante pour ça.
Oui.
La maladie mentale, qu'est-ce qu'on peut faire à cette époque-là, les procès, comment ça se déroule, c'est quoi la jurisprudence. C'est passionnant.
Ah oui, vraiment. Et vous, Diane, avez-vous travaillé fort aussi pour être vraisemblable?
Oui et non. C'est-à-dire que je travaille fort pour être vraisemblable. Je rencontre un pathologiste, c'est mon informateur aussi principal.
Avez-vous assisté à une autopsie?
Non.
Vous n'êtes pas allé jusque-là?
Non, non. Par contre, j'ai reçu à Noël un très, très beau livre sur l'état des cadavres à toutes les époques et à toutes les étapes selon ce qu'ils ont pris, bon, etc. Parce que je l'ai écrit de temps en temps où je l'appelle en disant, bon, un corps retrouvé dans l'eau après une semaine, ça a l'air de quoi? À partir de ce qu'il me dit, bien sûr, moi, j'en fais ce que je veux. C'est-à-dire que, bon, je suis chercheur dans la vie obligée, contrainte à la rigueur scientifique. Dans mes romans, moins. Donc, je me permets certaines choses et j'essaie que le vraisemblable l'emporte sur la vérité. Je ne veux pas avoir, je veux pas faire un traité, de toute façon, de pathologie ou même sur le vaudou, par exemple, sur lequel j'ai travaillé. Il n'était pas question que je fasse un compte-rendu de la région vaudou. D'abord, j'ai beaucoup lu là-dessus et c'est impossible qu'on y comprenne quoi que ce soit en peu de temps et même quand on n'est pas né là-dessus. Donc, pour moi, ce qui va plutôt être ma façon de travailler, après avoir fait certaines recherches sur le plan policier ou médico-légal, c'est beaucoup à travers les objets ou des promenades. Je me promène dans des lieux, j'essaie de voir un peu ce qui se passe, comment les gens circulent, comment ils bougent, et puis des objets aussi qui pour moi sont très importants. Tous les objets, par exemple, le vaudou, j'en ai vu beaucoup, soit dans différents musées, dans des catalogues, dans des boutiques ici ou à l'étranger. Et à partir des objets, je construis l'histoire de la manière avec laquelle ils ont peut-être été utilisés. Donc, pour moi, c'est l'invention, mais je travaille beaucoup moins avec des informateurs qu'avec des objets ou des images représentatives, des tableaux, des objets aussi beaucoup.
C'est intéressant. Et dites-moi, dès votre première page, Richard, dans votre livre, vous faites la liste des clichés, les clichés du genre du policier. Oui. Voulez-vous me parler des clichés et comment vous essayez de les éviter aussi? Il y a des idées toutes faites à propos de ce que doit être un policier.
Absolument. Moi, j'ai fait récemment, dans le but d'écrire un article, j'ai fait la liste des détectives célèbres. Kurt Wallander, etc., etc., avec les livres, bon. Un travail de recherche, là. Ils sont tous alcooliques ou anciens alcooliques. Des problèmes d'alcool et de drogue, mal nourris, négligés, des fois pas trop propres, tous divorcés ou sur le bord d'eux, tous des problèmes avec leurs enfants et tous des problèmes avec l'autorité policière. Alors moi, j'ai dit, non, je fais surtout pas ça. Donc, j'ai un policier qui aime sa femme depuis 25 ans, tendrement, qui boit pas, qui boit un verre de rosé le midi, le dimanche.
Qu'est-ce que vous pensez de la liste de Richard, là? Diane, c'était pas mal exact, Jacques?
Bon, mes personnages boivent beaucoup, mais je sais pas s'ils sont alcooliques. En tout cas, c'est pas un problème chez eux, c'est tout simplement qu'ils adorent la grappa. Oui. Et puis partout où ils vont dans le monde, ils s'adaptent aux coutumes locales. Alors, dans le dernier roman, ils sont en Catalogne, donc ils boivent des vins catalans, etc. Donc, ils s'adaptent et bon, ils boivent beaucoup, ils aiment bien manger aussi. Je suis pas très portée sur les recettes détaillées, mais les descriptions de restaurants, peut-être un peu. Mais sur les clichés, donc revenons aux clichés. Oui, cette espèce de misère que traînent les policiers comme s'ils étaient tous quelque chose de raté par ailleurs. Moi non plus, je voulais des choses un peu plus différentes. Et d'ailleurs, mon couple de personnages, en fait...
Une massothérapeute et un inspecteur.
Une massothérapeute, c'est ce qui permet à mon histoire un peu d'être en marge de la loi, en marge des règles, en marge de la quête de la justice telle qu'elle existe dans les lois. Josette est beaucoup plus permissive. Vincent est obligé de suivre la loi. Il est policier, il est enquêteur. Mais Josette, elle, pas du tout.
Non, c'est ça.
Donc, elle se permet tous les écarts.
Ben oui, et ça m'amenait à ma question suivante, là, mais j'y reviendrai tantôt, c'est-à-dire comment on peut contourner et réinventer le genre. Jacques, à propos des clichés, vous, comment vous les voyez, les clichés du genre, aussi le policier? Ouais.
Quand j'ai commencé ma série, je me suis dit que j'allais donner à mes personnages d'enquêteurs des noms québécois. Parce que beaucoup, puis c'est pas une critique que je vous fais, il y a beaucoup d'auteurs de romans québécois, c'est comme si on donne des noms anglophones.
Mais là, c'est
aux
italien, c'est pas pire, hein?
C'est différent, effectivement.
Oui, Pagliaro et oui, Bastianello. Mais vous, c'est Duval.
Oui, ce que je veux dire par là, c'est comme j'ai eu l'impression pendant un certain temps que pour avoir un bon enquêteur, ça y prenait un nom anglophone. Et moi, j'ai réagi beaucoup à ça. J'ai d'ailleurs un nom vraiment... Tu ne peux pas avoir plus québécois que ça. Harel et Duval. Et il y a un Tremblay aussi.
Donc, c'est intentionnel.
Oui, c'est intentionnel. Et puis, probablement qu'à un moment donné, je vais avoir un enquêteur. Comme dans le prochain roman, j'ai un Johnston qui est un anglophone dans le roman avec... justement avec Villeneuve. Mais pour briser les règles du genre, j'ai voulu un personnage qui était un sportif. Je trouvais qu'on n'avait pas ça dans les enquêtes, dans les enquêteurs. Un personnage qui est sain d'esprit, qui prend un coup. Effectivement, le mien, je me demande s'il a bu une bière depuis le début de ma série.
Hey, le vôtre, il est d'une sobriété anormale.
Une vie plate. Hein? Vie très excitante, mais quand rentre chez lui, c'est vrai que c'est plate un peu. Donc, c'est pas trop olé-olé. Mais ce qui se passe autour, c'est vraiment quelque chose. Il y a beaucoup, beaucoup d'action. Mais j'ai voulu briser des règles du genre en faisant un personnage qui était le bon père de famille également. Le cas straight, finalement, là, pas très spectaculaire.
Alors, vous avez eu quand même des idées assez communes. Richard Sainte-Marie, c'est pareil. Hey, le vôtre étudie la philosophie.
Oui.
Ça, c'est rare, un inspecteur qui il suit des cours du soir.
Oui,
en philosophie.
En cachette de son patron, oui.
Bon, est-ce que c'est une volonté de réinventer un peu, de casser la règle?
Oui, de sortir un peu des sentiers battus, mais c'est difficile de sortir des sentiers battus. Moi, j'ai déjà eu des critiques pour mon premier livre. On disait, c'est excellent, mais ça ne renouvelle pas le genre. Mais c'est dur de renouveler le genre parce que personne ne veut renouveler le genre. Pas les lecteurs, ils aiment ça. La preuve, ils en achètent plein de policiers alcooliques, etc. Les best-sellers américains sont juste ça. Et les éditeurs, eux autres, il y a la collection et il faut que ça rentre dans certaines règles du jeu, c'est normal.
Mmh. Mais vous avez respecté la musique, hein? La musique c'est important,
oui,
ils écoutent souvent du jazz, mais vous, ils écoutent du Schubert.
J'écoute du Schubert, parce que moi j'aime le Schubert. Il y a quelqu'un qui me disait, ton enquêteur est cultivé, c'est pas l'enquêteur qui est cultivé, c'est moi. Je suis pas obligé, je suis pas génial. Je suis obligé d'être cultivé.
Mais vous y mettez beaucoup de vous-même. Je trouve ça mignon quand même parce que, Jacques, vous êtes vous-même un coureur comme Duval. Alors là, oui, il y a un petit dédoublement. Josette, dans quelle mesure allez-vous, Diane, votre massothérapeute?
Est-ce que je suis masseuse? Est-ce que je suis masseuse? Non, en fait, je suis consommatrice de tous les plaisirs corporels qu'on offre partout à travers le monde, de tous les types d'approches corporelles. Ça, c'est clair. Dans mes voyages aussi, ça m'amène à connaître des choses.
Est-ce que Josette est votre façon de vous insérer dans votre propre roman, finalement? Vous devenez un petit peu la Josette qui se penche sur l'enquête de Bastianello tout ça?
J'aimerais beaucoup avoir l'audace de Josette dans la vie, avoir son courage, avoir son front. Je ne l'ai pas. Je suis quelqu'un je suis plus peureuse qu'elle. Je suis moins audacieuse. Puis des fois, peut-être que je suis plus Vincent que Josette.
Il est
finalement.
Sage, lui.
Vincent est beaucoup plus sage. Il est beaucoup plus posé. Il n'a pas couru à travers le monde. Il n'a pas connu les tatouages dans les îles du Pacifique. Alors que Josette a passé une partie de son adolescence et du début de son âge adulte dans les îles du Pacifique. Donc, ça lui a donné une connaissance du monde. Incroyable, ça. Mais non, j'aimerais peut-être être Josette. C'est fantasmé.
C'est très fantasmé. Vous vouliez ajouter quelque chose, là?
Tu parlais tout à l'heure de course à pied, mais c'est vrai que le personnage, il fait de la course à pied, du marathon, demi-marathon. Je faisais beaucoup de course à pied avant même d'écrire ma première série, mais je n'avais jamais fait de marathon, de demi-marathon. Et quand, dans un de mes romans, Le chemin des brumes, j'ai fait faire un marathon à mon personnage, je me suis dit, mais il faudrait peut-être que j'en fasse un pour vraiment ressentir ce que c'est, parce que je décrivais la fin du marathon. Et là, j'ai commencé à m'entraîner pour un marathon. Je courais quand même des bonnes distances, mais un marathon, c'était quelque chose, c'était un long entraînement avant de le faire. Et ça a été intéressant. Je te dirais que ça correspondait à peu près à ce que j'avais écrit avant de faire le marathon dans le chemin des brumes. J'étais content.
Mais devenir sportif quand même pour la crédibilité du roman, ça, c'est fort. Il faut le faire. En quelques mots, qu'est-ce que vous nous préparez? Là, je sais que vous encaissez encore votre succès, Richard. Vous venez de publier L'Inaveu. Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur un autre polar? Est-ce que ça va devenir un appel irrésistible?
Bien, en fait, je retravaille le premier parce que chez Alire, on va refaire Un ménage rouge qui avait été publié chez Stanké.
C'est l'histoire d'un meurtre, ça?
Oui, c'est un meurtre. On sait de la page 5 qui a fait quoi. Mais là, Pagliaro apparaissait dans le premier une page. c'était déjà un personnage intéressant, mais une page. Alors, je vous donne plus de place et ça va être un peu plus policier, justement. Autant psychologique, mais il y aura plus de procédures.
Diane, en quelques mots, votre prochain livre.
On va courir la route de la soie. Évidemment, il faut toujours qu'il y ait un rapport avec la peau, avec le corps aussi, pour que Josette puisse avoir du travail. Mais Josette va être confrontée à des situations extrêmement dramatiques liées à la route de la soie.
Et Jacques, en quelques mots, vous aussi.
Oui, fin du 19e siècle, docteur Villeneuve est revenu de Paris. Il travaille à la morgue de Montréal. On est en 1893. Il est engagé comme assistant surintendant à l'Asile Saint-Jean-de-Dieu en même temps. Et il y a Faiseur d'Ange, le nom qu'on leur donnait, un opérateur criminel qui fait des avortements qui finissent par être des boucheries. Donc, on est dans le domaine des avortements criminels.
Eh bien, ouais. J'ai hâte de lire ça. Mais en attendant, il faut lire vos livres, ceux qui sont déjà sur les tablettes et que vous pouvez vous procurer, bien sûr, au salon. Donc, Poison, L'Inaveux et...
Le sang des prairies.
Le sang des prairies, c'est le dernier, mais c'est pas votre Duval, ça, mais il est très, très bien aussi, le sang des prairies. Merci beaucoup à vous trois.
Merci beaucoup.
Longue vie au polar.